Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. L'armée congolaise a repoussé une attaque des EDF la nuit dernière à Kokola, dans le Nord Kivu. Des tirs à l'arme lourdes entendus ont provoqué un déplacement des populations locales. Aucun bilan disponible pour le moment. Inauguration hier à Kalemie par le chef de l'État du nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo, BCC. Félix-Antoine Tshisekedi a également visité le chantier du nouveau palais de justice à Kalemie, dont les travaux sont financés par la Suède. Et puis, l'invité de ce midi, Liliane Komba, point focal de la synergie de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. À l'occasion des 16 jours d'activisme en faveur des droits des femmes, elle préconise que les femmes s'imprègnent de leurs droits pour bien les revendiquer et dénoncer leurs bourreaux en cas d'abus. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Les FARDC affirment avoir repoussé une attaque des rebelles des EDF dans la nuit de jeudi à ce vendredi à Kokola, villa située à 50 km au nord-est de Beniville. Des tirs à l'arme automatique et lourdes ont été entendus, provoquant un déplacement des populations locales. Selon la société civile locale qui rapporte les faits, aucun bilan n'est encore disponible. Le récit d'André Kitenge.
D'après la société civile du groupement de Bambou Bakisiki, les rebelles des ADF progressant de l'est vers l'ouest de la route nationale numéro 4 ont attaqué le village de Kokola aux environs des 19h heure locale. Son président précise que les rebelles ont tiré plusieurs coups de feu. Alertés, les soldats des FARDC déployés dans la région sont intervenus, engageant un échange de tirs avec les assaillants qu'ils ont fini par repousser. Patrick Kaassa exprime son inquiétude face aux attaques répétées des ADF dans la région depuis deux semaines, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année.
Notre inquiétude, nous, population, l'ennemi serait déjà à l'ouest de l'axe Eringeti jusqu'à Kokola. Notre recommandation est que cette force de la coalition UPDF-FRDC puisse voir déjà les dangers qui nous guettent à l'est sur l'axe routier Luna-Kainama, Eringeti-Maimoya jusqu'à même Oicha. Donc il faut déjà préparer tout ce qui est protection pour protéger les civils, pour qu'ils fêtent dans une condition là humaine.
Un calme précaire règne ce matin dans la région après l'arrivée des troupes de la coalition FARDC-UPDF. A noter que nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu pour la version de l'armée. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Par ailleurs, la société civile du groupement de Banande Kainama dans le territoire de Beni appelle au renforcement des effectifs militaires des forces conjointes FARDC-UPDF sur le tronçon Eringeti-Kainama. Selon Jonas Zawadi, président de la société civile, cette demande est motivée par les trois récentes attaques des rebelles des EDF qui ont fait plus de 5 morts et plusieurs disparus en l'espace d'une semaine. Il demande également aux autorités militaires de rétablir des positions sur ce tronçon qui demeure la seule route reliant la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri. Jonas Zawadi bin Kasumba, joint par André Kitenge.
Nous sommes en train de lancer un cri d'alarme aux autorités militaires des opérations conjointes FARDC-UPDF, en tout cas de renforcer les effectifs militaires sur les tronçons routiers Eringeti-Kainama, mais aussi de reprendre toutes les positions qui étaient placées sur ces tronçons dans l'ancien temps, parce que la sécurité des usagers de cette route vraiment n'est pas rassurée. Certains sont en train de passer 3 jours, 4 jours de l'autre côté, soit Eringeti, soit à Kainama, en train de patienter les convois. En tout cas, une situation qui n'est pas tout bonne, raison pour laquelle nous trouvons comme piste de solution le renforcement des effectifs militaires vraiment sur ces tronçons, parce que c'est l'unique voie qui unit aujourd'hui la province de l'Ituri ainsi que celle du Nord Kivu, et la vie de plusieurs personnes dépend vraiment de ces tronçons routiers. Nous pensons que vraiment notre cri d'alarme va tomber juste aux oreilles des autorités militaires, et nous serons vraiment contents de voir ces effectifs ainsi que des positions renforcées sur ces tronçons, pourvu que le trafic que si ce tronçon soit effectif.
Le porte-parole des opérations Sokola 1 promet de se prononcer à ce sujet. Pendant ce temps, en Ituri, le caucus des chefs coutumiers dénonce la porosité des frontières dans les territoires d'Aru, Maagi et Irumu, ce qui a comme conséquence l'invasion de certains villages congolais par des forces étrangères. Ces dernières se livrent parfois à des exactions contre les habitants, ajoute la même source. Ces chefs coutumiers et acteurs de la société civile plaident en faveur de la démarcation des frontières et le renforcement de l'effectif des militaires. Isaac Remoyope.
Des cas d'évasion des entités congolaises par des forces étrangères suivies d'exactions des habitants sont fréquents en Ituri, rapporte le caucus des chefs coutumiers. Cette structure cite notamment l'occupation depuis 3 ans du village d'Urio dans les territoires de Maagi par des militaires ougandais. Ces derniers revendiquent l'appartenance de cette localité. Il y a aussi les îlots des Rukwanzi et des Muchanga sur les lacs Albert dans les territoires d'Irumu, dont les habitants sont chaque fois menacés de déguerpissement par des services ougandais qui prétendent que ces villages se trouvent en Ouganda. Des pêcheurs congolais sont souvent arrêtés ou dépouillés de leur matériel de pêche et poissons. À Aru, plusieurs cas de violation des limites frontalières sont signalés dans les chefferies de Kakwa et de Kaliko Omi. Ces chefs mettent en cause la porosité des frontières et les faibles effectifs des FARDC aux frontières avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Ils lancent un appel au gouvernement pour garantir la sécurité dans cette province. Leur porte-parole, Katalo Takumar.
Que cette démarcation soit faite en fait de trouver une solution pacifique entre l'Ouganda et la RDC, puisqu'ils aussi profitent ces non-démarcations ont fait d'envahir notre village. Donc nous souhaitons à ce que le gouvernement national puisse prendre ces choses au sérieux, afin que nos voisins ne puissent pas occuper nos espaces.
Ces préoccupations ont été également soulevées par des acteurs politiques et membres de la société civile à la délégation de la première ministre en visite à Bunia la semaine dernière. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, le président de la République a procédé hier jeudi à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo, BCC, à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Pour Madame la gouverneure de la BCC, la réalisation de ce projet vise à offrir à son personnel les meilleures conditions de travail. Le chef de l'État a aussi inauguré le centre de santé de Mutoa et visité le chantier du nouveau palais de justice de Kalemi. Paulin Munanga, reportage.
La gouverneure de la BCC a rappelé que la construction de ces bâtiments abritant l'agence autonome de la banque découle d'une nécessité née du désengagement en 2016 de la Banque commerciale du Congo de la ville de Kalemi. Cette banque faisait office d'agence mandataire de la BCC et ce désengagement, précise-t-elle, avait laissé la ville de Kalemi sans service bancaire. La gouverneure de la BCC, Marie-France Malangu Kabedi, souligne que cette agence, comme tant d'autres entités, facilite certaines opérations de trésors à travers les pays.
Les entités provinciales de la BCC jouent un rôle primordial dans l'exercice de sa mission comme institut d'émission, s'assurant qu'il y a une liquidité suffisante en fonds congolais pour le dénouement des activités économiques et en particulier les activités du secteur financier.
Signalons par ailleurs que ce mercredi, le chef de l'État a aussi inauguré le centre de santé de Mutoa dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du PDL 145 territoire. Félix Tshisekedi a visité le même jour le chantier du nouveau palais de justice de Kalemi. Les travaux de construction de ces bâtiments sont financés par la Suède et réalisés par les PNUD. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La sécurité des journalistes en ligne en période de crise et d'urgence en RDC, état des lieux et perspectives, c'est le thème d'un atelier organisé hier jeudi par le bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Les membres des différentes corporations des journalistes ont soulevé des problèmes liés à leur sécurité dans l'exercice de leur travail en RDC. Cette activité s'est tenue en marge de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, journée célébrée le 2 novembre de chaque année. Étienne Lissoumbo pour les détails.
Pour l'UNESCO, il est important de renforcer les capacités des journalistes dans des contextes de crise. Isaias Vareto, son représentant pays, explique pourquoi.
Nous avons au niveau mondial un grand besoin de protéger les journalistes, d'assurer la liberté d'expression et d'assurer la protection des journalistes. Lorsque nous protégeons les journalistes, nous contribuons à la promotion de la liberté d'expression. C'est dans ce cadre que nous rassemblons ici les journalistes, notamment les journalistes des médias en ligne, pour parler de cette question importante.
Au cours des discussions, des journalistes, membres des différentes corporations, ont soulevé des cas d'insécurité auxquels ils sont exposés en RDC. RDC. Ils ont aussi formulé des recommandations pour travailler en toute sécurité. Pour les propositions, tous insistent notamment sur l'adoption par le Parlement de la nouvelle proposition de loi sur la presse. Mais qu'espèrent les participants après ces assises? Patien Ligodi, vice-président de l'association de médias d'information en ligne.
C'est d'avoir des politiques claires en matière de la prise en compte des nouvelles réalités de la sécurité des journalistes, puisque la sécurité n'est plus que physique. Maintenant, il y a aussi des facteurs liés au digital.
On ne peut pas parler de l'engagement de développement sans que la sécurité des journalistes ne soit assurée, selon le professeur Joseph Linon Pungi de l'UNESCO.
Et puis, validation du plan de travail et budget annuel exercice 2025 du programme d'investissement pour la forêt. Cela s'est fait hier à Kinshasa au cours des travaux de la première réunion du comité national de pilotage du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest. Ce plan est évalué à plus de 36 millions de dollars en termes de prévisions pour permettre à la RDC de faire face aux défis environnementaux auxquels elle est confrontée dans les provinces cibles. Explication à Skinzigbiateur.
Dans la présentation sur site du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savanes, 7 provinces sont bénéficiaires de ce projet. Il s'agit de Congo Central, Kwilu, Kinshasa, le Kasaï Central, Kasaï Oriental et la Lomami. À ce travail de validation du plan annuel de Piforest, le secrétaire général à l'environnement et développement durable a expliqué en quoi doit aboutir ce projet. Benjamin Tayirambe.
Dans ce projet, il y a 3 aspects. Il y a d'abord l'aspect de la restauration de nos savanes. Et pourquoi nous devons restaurer nos savanes? C'est tout simplement pour lutter contre le changement climatique et ça c'est notre contribution. Restaurer aussi notre biodiversité, lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des communautés, ça va se faire dans ces projets. Là où il y a les peuples autochtones, on va aussi faire un effort pour améliorer leurs conditions de vie.
Il faut noter que l'exécution de ce projet rentre dans le cadre de financement global de 300 millions de dollars de la Banque mondiale pour couvrir une période de 7 ans de lutte contre la déforestation et amélioration des vies de la population forestière en RDC.
Santé, lutte contre l'épidémie de monkeypox dans la province de l'Équateur. 180 armateurs, motards et taximens de vélo ont été sensibilisés hier à Mbandaka sur cette maladie qui sévit encore à travers les 18 zones de santé de la province. Cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer se focalise notamment sur les causes de transmission et les moyens de prévention. La campagne a débuté le week-end dernier avec différentes couches sociales, dont les acteurs éducatifs et les leaders religieux, les associations féminines et des jeunes, les artistes, les enfants reporters, les peuples autochtones et les journalistes. Une initiative de la Task Force Communication Multisectorielle de l'Équateur. Le président provincial de cette structure, Jean-Denis Tizot, en explique la motivation au micro de Paul-Richard Malengela.
Tout le monde est vraiment debout pour lutter contre cette maladie. Et nous, du côté de la Task Force Communication Multisectorielle pour la province de l'Équateur, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, dans notre plan de réponse, nous avions pensé organiser des différentes activités liées à la sensibilisation, au plaidoyer. Et aujourd'hui, nous sommes sur terrain et nous voulons assez que toutes les couches soient informées. Nous avons aussi les transporteurs, comme vous voyez ici, les motards, les armateurs, pour que la population puisse prendre conscience que la maladie existe. Et pour lutter contre cette maladie, nous devons adopter un certain comportement.
Lequel?
Par exemple, le lavage régulier des mains, ne pas toucher des malades, ne pas manger des animaux morts dans la forêt, tout ça, ainsi de suite. Et là, nous allons vraiment combattre et éradiquer cette maladie dans la province de l'Équateur. Le feedback, déjà, nous l'avons parce que au niveau des églises, chaque matin, les pasteurs, les clergés, les autres acteurs ont commencé déjà à sensibiliser les fidèles. Et nous savons déjà qu'il y a appropriation et les retombées sont là. C'est-à-dire la communauté équatorienne est déjà informée.
Notez qu'à l'issue des séances de sensibilisation, chaque groupe a signé un acte d'engagement afin d'adopter les pratiques relatives à la lutte contre la Mpox. À Bounia, 28 jeunes, dont 4 filles, ont achevé hier une formation sur la conduite de pelleteuse, plus connue dans le milieu des travaux publics sous le nom de Poclin. Cette formation, qui a duré 3 semaines, était organisée par les casques bleus bangladais de la MONUSCO. Elle vise à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, dont certains désœuvrés se livrent à des actes de violence ou rejoignent les groupes armés. Jean-Claude Loki, reportage.
Parmi les lauréats, on retrouve des conducteurs de taxi-moto, des étudiants, des élèves ayant terminé leurs études secondaires qui se retrouvent dans la rue, faute d'emploi. Âgé de 28 ans, Zawadi Kermoundou s'est dit fier d'avoir appris à conduire cet engin.
Nous avons commencé par la théorie et puis nous sommes allés sur le terrain. Maintenant, je suis en mesure de conduire cette machine, que ce soit celle qui roule avec des pneus à caoutchouc ou celle qui se déplace avec des pneus à chaîne.
Des jeunes dont certains sont en quête d'emploi, notamment auprès des entreprises qui réhabilitent les artères de la voirie urbaine, n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. C'est une façon de diminuer le chômage, estime Blanchard Longou, qui se dit heureux d'avoir appris ce nouveau métier.
Quand tu ne connais aucun métier, tu es chômeur. Tu peux facilement être tenté de voler des biens d'autrui et plonger dans la criminalité. Mais nous autres, qui avons appris à conduire ces engins lourds, nous pouvons facilement être embauchés par des entreprises qui réhabilitent des routes, notamment Mogabaon, qui réhabilite la voirie urbaine à Bounia.
Compte tenu de la demande qui est toujours croissante, une nouvelle formation est programmée au mois de janvier 2025, a rassuré le colonel Moukim, le responsable du contingent bangladais basé au camp de la MONUSCO Andoromo. Bounia, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France et révisé en 2019, cela sans donner des précisions pour le moment sur ce qu'implique la rupture de cet accord. L'annonce a été faite quelques heures après la fin de la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères au Tchad. Par ailleurs, au Sénégal, Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a eu un massacre à Tiaroé en 1944. Dans une lettre adressée au président du Sénégal hier, Emmanuel Macron affirme que la France se doit de reconnaître qu'il y a eu un massacre dans le camp militaire de Tiaroé, en périphérie de Dakar, la capitale sénégalaise, le 1er décembre 1944. Les forces coloniales ont ouvert le feu sur des tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de solde. Le bilan officiel de l'armée de 70 morts est contesté par les historiens qui l'estiment à plusieurs centaines.
L'invité.
Nous recevons Liliane Komba, vice-présidente au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et point focal de la synergie des luttes contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. À l'occasion des 16 jours d'activisme en faveur des droits des femmes, elle préconise que les femmes s'imprègnent de leurs droits pour bien les revendiquer et dénoncer leurs bourreaux en cas d'abus. Liliane Komba s'entretient avec Jean Gandou.
Liliane Komba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
Pourquoi attendre seulement le mois de novembre pour commencer à activer cette lutte en faveur de la jeune fille et de la femme?
Parce que c'est le 25 novembre que les Nations Unies a décrété la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles qui s'étend jusqu'au 10 décembre, journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ceux qui se mettent dans cette lutte travaillent au quotidien. Il y a beaucoup d'organisations comme la mienne et la synergie des luttes contre les violences basées sur les genres. Mais pendant cette période ici, de signaler qu'on y mette un accent particulier pour évaluer, se mettre ensemble, prendre les stratégies à venir. C'est-à-dire, comme les 16 jours d'activisme sont décrétés, ça va s'étendre sur toute l'année.
Quelle est la particularité pour la province du Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi en rapport avec les violences faites à la jeune fille et à la femme?
Nous pouvons dire d'emblée que ici il y a une spécificité. D'abord, c'est les cas de vol-viol. Lorsque les bandits entrent dans les maisons, abusent aussi des femmes et se permet même de photographier pour envoyer dans les réseaux. Il y a aussi les violences qui nous proviennent des universités et des écoles. Nous pensons vulgariser les lois et les instruments juridiques qui protègent la femme et la jeune fille. L'ignorance de cela empêche la femme de poursuivre les bourreaux. Elle va garder son silence, mais elle ne sera pas non plus épanouie, elle va s'encloisonner à elle-même et c'est ce qui est fatal. Alors, elle demeure dans ses violences parce qu'elle n'a pas de moyens de survie. Les survies proviennent des fois de son bourreau, comme pour les cas de violences conjugales. Nous allons aussi faire la clinique juridique avec les collectifs des femmes juristes et avocats, les organisations féminines de la société civile, les députés en partenariat avec le ministère des gens, familles et enfants pour descendre dans la population et déceler les mots qui rongent par rapport aux violences et y apporter des solutions.
Les organisations qui militent en faveur des droits de la femme demandent à ce que les femmes puissent dénoncer les abus dont elles sont souvent victimes, mais généralement ces femmes ne les dénoncent pas. Quelles pourraient en être les raisons?
Le fait que la femme n'est pas instruite, elle est aussi sous-informée des outils juridiques qui peuvent la défendre. Il y a les us et coutumes rétrogrades, il y a les conceptions religieuses, pas toutes qui sont un frein pour le développement d'une femme. Dans d'autres obédiences, on dit que la femme n'a pas de parole, elle ne peut pas faire ça. On la l'astreint dans ses droits. Même si elle souffre, c'est normal, c'est son mari, c'est le mariage. J'ai des cas même des membres proches de la famille où la femme souffre amèrement. Le mari l'a déjà même quitté, mais l'église lui dit c'est toujours ton mari. Vous voyez, des choses comme ça sont des aberrations qui annihilent cette femme. Et des femmes comme ça ne pourront jamais prendre la décision et ne pourront jamais se mettre debout. Elle voit du noir, mais elle est en train de rêver que ce mari reviendra. Mais si il peut revenir, peut-être c'est pour lui amener aussi la maladie.
C'est vrai que vous voulez que les gens puissent dénoncer. C'est vrai que vous voulez également mettre à la disposition des femmes des textes de loi où les femmes peuvent reconnaître quels sont leurs droits. Ne pensez-vous pas aussi traduire ces différents textes dans les langues locales afin qu'en prenant connaissance des lois, elles puissent être à même de bien revendiquer leurs droits?
Il y a un effort à faire pour traduire dans les langues. Nous, notre stratégie, par exemple, nous formons une tache d'huile, c'est-à-dire les délégués sont venus de partout des villes et territoires. Ils vont descendre et les autres vont restituer jusqu'à arriver à la dernière femme. C'est une meilleure façon, et par les écrits et par la parole, dans les églises, dans les associations, dans les groupements, et intéresser aussi les autorités politico-administratives. C'est notre façon de faire pour faire arriver cette information. Comme cette année, on célèbre le 12e anniversaire du traité de Maputo, nous allons nous y mettre pour vraiment faire parvenir. Là où il n'y a pas l'instruction, on va faire un effort de faire l'oralité, pas les sketchs, les jeux de rôle et tant d'autres. Nous allons vulgariser ces protocoles des Maputo qui donnent beaucoup de chances et d'avantages à la femme et à la jeune fille.
Liliane Komba, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Jean Gandou, c'était un plaisir.
Voilà, notre invitée est présidente au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et point focal de la synergie de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Elle répondait aux questions de Jean Gandou. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Jean-Claude Nsiala à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres et surtout très bonne suite de programme sur Radio Capi.